J'ai de l'argent de côté et je suis libre. Une demi-heure plus tard, elle est à Paris. Une fois sortie de la gare, elle va dans un café prendre son petit déjeuner. En prenant son petit déjeuner, elle se sent libre et heureuse. Pour la première fois de sa vie, elle a l'impression d'être jeune. Elle se dit, il est bien temps à mon âge. Après avoir pris son petit déjeuner, elle décide de se chercher un petit hôtel pour les premiers jours, le temps qu'elle trouve un appartement à louer. Elle se trouve un petit hôtel boulevard Saint-Germain, une chambre pas très chère. Elle passe le premier jour à s'acheter ce qui lui manque et à visiter son quartier. Le soir, après le dîner, pris dans un restaurant près de l'hôtel, après avoir été au cinéma, elle est allée se coucher dans sa chambre. La nuit, dans son sommeil, elle est réveillée par des bruits, par l'impression que son père est là près d'elle et qu'il veut l'embrasser. Cela la met en sueur, elle en a une pleure bleue. Toutes les nuits, elle a l'impression que son père vient la voir dans sa chambre. Elle ne peut s'empêcher de sentir sa présence, malgré qu'elle sait que c'est impossible. Cela lui devient intolérable et a peur de voir la nuit tomber, s'approcher et de se coucher. Elle veille la lumière éclairée le plus longtemps possible. Plus les jours passent et plus elle a des hallucinations, elle a l'impression constante que son père est près d'elle, la surveille, la touche. Cela la dégoûte et il faut qu'elle se douche constamment dans la journée. Prend plusieurs fois des douches. a l'impression que son corps est définitivement souillé. La vie lui devient intolérable, surtout qu'elle n'ose plus sortir de sa chambre de peur d'avoir une envie irrésistible de se doucher. Elle vit en vase clos, où à chaque fois qu'elle se sent souillée, elle court se doucher. Vous me direz, pourquoi ce dégoût d'un coup, alors qu'elle a passé presque 25 ans avec son père à faire ce qui la dégoûte maintenant et en y trouvant de la fierté. Comme toutes les personnes fières qui ont reçu un affront, cela la réveille et lui a montré la vérité, ou plutôt lui a montré l'autre côté de la vérité. Ce choc a été plus fort que si elle avait appris la vérité petit à petit. Et puis, elle vivait en vase clos, avec son père, sans personne, avec leur habitude, leur loi, si l'on peut dire. Et c'est bien, douillet les habitudes, ça protège du monde, de la peur du monde. Et puis, elle aimait son père comme une petite fille, bien sage. Elle était fière de cet amour, elle l'a aimé comme une vieille femme, une vieille compagne. Et voilà qu'une inconnue vient le lui prendre. Elle est trompée comme une vieille femme. Alors sa colère lui a montré, par déduction, ce que son orgueil lui a caché, l'horreur des relations qu'elle a eues avec son père. Et cette horreur la ramène en arrière, pour lui faire revivre la chose pour qu'elle comprenne mieux. Malheureusement, ce dégoût contre son père s'est posé aussi contre elle-même. Elle ne se supporte plus. Au bout d'un moment de cette vie cauchemardesque, dans un instant de lucidité, elle décide de se libérer. Mais comment ? C'est en elle. Elle n'arrive pas à oublier. Elle sait qu'il faut qu'elle oublie pour recommencer une nouvelle vie. Mais comment ? Elle a beau faire des efforts, elle n'y arrive pas. Elle retourne toujours dans le même cauchemar. Un jour, Galien est dans son bureau. Le téléphone sonne. Il décroche. Oui.
Monsieur, il y a une personne qui désire vous parler.
Galien demande. Qui est-ce ?
C'est une dame. Elle ne veut pas dire son nom, mais elle dit qu'elle vous connaît. Elle a quelque chose à vous demander.
Bien, faites entrer, mais pas plus de 5 minutes.
Bien, monsieur.
L'on frappe à la porte. Galien regarde sur son écran et voit une femme habillée en tailleur noir. Elle porte un petit chapeau avec voilette, une minuscule voilette. Il se dit, encore une mondaine. Il appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. La porte s'ouvre. La dame entre.
Bonjour, monsieur.
Galien se lève et lui dit.
Vous avez demandé à me voir, madame.
Venez vous asseoir.
Je vous écoute. » Elle lui dit, « Eh bien voilà, monsieur, j'ai entendu dire c'est que vous faisiez des opérations du cerveau et j'aimerais que vous m'opériez. » Kélian lui dit, « Je ne suis pas médecin, madame. » Elle lui dit, « Je le sais, monsieur, mais vous avez une clinique. » « Je vais vous donner son adresse. »« Mais je la connais. »« Eh bien, » elle lui dit, « c'est un peu compliqué. J'aimerais être opéré anonymement, que personne ne sache qui je suis. » Kélian lui dit, « Nous ne donnons jamais le nom de nos patients. » Elle lui dit, « J'aimerais c'est que le personnel de la clinique, soignant, médecin, ne sait, tout le monde ne sache pas qui je suis. » Kélian lui dit, « Vous n'avez qu'à y aller sans nom, sans donner votre nom. » Elle lui dit, « Mais j'aimerais ne pas être vue. » Kélian lui dit, « C'est un peu compliqué. Non, vous mettez un masque sur le visage. » Kélian lui dit, « L'on vous opère du cerveau, cela risquerait de gêner. » Elle lui dit, « Vous trouverez bien quelque chose, je paierai très cher, j'ai les moyens. » Kélian lui dit, « Mais pourquoi tout ce mystère ?» Elle lui dit, « Parce que j'ai été violée par mon père et je veux qu'on m'enlève mes souvenirs. Je ne peux pas vivre avec. Ma vie est un véritable cauchemar et je veux oublier. » Kélian lui dit, « Partez voyager, c'est bon pour oublier. » Elle lui dit, « J'ai déjà fait, mais je sens constamment contre moi. Je sens sa peau contre la mienne. Et ça m'est insupportable. » Kélian lui dit, « Si on vous enlève la mémoire du cerveau, c'est définitif. Vous ne saurez plus rien. » Elle lui dit, « Je le sais. J'en serai heureuse. Je vous en supplie. Faites-le pour moi. Moi, une victime. Je veux être une autre femme. Celle que je suis est morte depuis longtemps. Je vous en supplie. Je vous le demande. » Comme une prière. » Kélian lui dit, « Puisque vous le souhaitez vraiment, ma foi, c'est peut-être la seule solution pour que vous puissiez vivre heureuse. Mais vous allez me signer une décharge et me payer à l'avance. » Elle lui demande, « Et le masque ? » ?»« Vous l'aurez. Revenez me voir dans une semaine. » J'aurai préparé le contrat et tout ce qu'il faut. Merci, monsieur. »
Elle se lève et sort du bureau.
Kélian se dit, encore une folle. Allô ? Pouvez-vous dire à M. Riquin de venir à mon bureau ? Oui, c'est urgent. Merci.
Entrez, monsieur Riquin. Monsieur, venez vous asseoir, monsieur le président.
J'ai une cliente pour vous. Il faut lui enlever la mémoire du cerveau. Elle a été violée et en est névrosée. Riquin lui dit, « Bien. » Kélian lui dit, « Elle veut garder l'anonymat et faudra masquer son visage. » Riquin lui dit, « C'est une artiste, une tête couronnée ?»« Non, mais elle paye bien. Elle viendra à la clinique avec un masque et en sortira avec. » Riquin lui dit, « Bien. » Thank you.
Une semaine plus tard, une femme arrive à la clinique, en tailleur rouge et un masque à la figure. Tout le monde a été prévenu. Elle a été opérée avec son masque. On lui a enlevé la mémoire, mais elle peut vivre normalement. L'opération s'est bien passée. Elle ressort de l'hôpital avec son masque. Riquin, curieux, comme il sait qu'elle a payé avec une carte à puce, demande au concierge au centre central à qui le central des cartes à puce appartiennent à Genetou. Pouvez-vous me dire si la personne que j'ai opérée a bien payé? Opération du cerveau, inscription 6520. Le standardiste regarde sur son ordinateur. Oui, monsieur. Bien. Comment s'appelle-t-elle déjà? Et son adresse? Elle a oublié son vêtement chez nous et nous avons oublié ses coordonnées. Elle lui dit « Elle s'appelle Karine Riquin. C'est votre fille, monsieur. Et elle habite l'hôtel Royal, boulevard Saint-Germain. C'est bizarre que vous ne savez pas que c'était votre fille. » Il lui dit « Non, c'est une personne qui a pris son identité pour être incognito. » Et elle décroche. Sa fille, il a opéré sa fille, sa propre fille. Il lui a enlevé la mémoire. Elle ne le reconnaîtra plus. Elle ne sera plus jamais sa fille. Il ne le sera plus jamais. Il a fait ça, lui. Quelle horreur! Et Galien devrait être au courant, ce salaud. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Il n'en peut plus. Prends le téléphone. Allô, ici Riquin. J'aimerais parler à Monsieur Diap. C'est très urgent. Allô, Monsieur Galien, j'ai à vous demander, savez-vous l'identité de la femme que j'ai opérée? Est-ce que vous la saviez, vous? Non, pas du tout. Elle ne m'a rien dit. Vous me le jurez? Oui, je vous le jure. Et pour le paiement de la décharge? Je lui ai promis de ne pas voir son nom. C'est ce que j'ai fait. Vous me le jurez? Oui. Pourquoi? Elle voulait perdre la mémoire. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Riquin lui dit. Parce qu'espèce d'idiot, c'est ma fille. Elle ne le sera plus jamais. Vous êtes un criminel. Je vais vous poursuivre en justice. Galien lui dit. Et moi, je vais vous dénoncer pour avoir violé votre fille. C'est pour cela qu'elle l'a fait. Elle l'a marqué sur sa décharge. Elle est dans mon coffre, Riquin lui dit. Vous gagnez toujours, Galien lui dit. Je ne le savais pas, je vous le jure. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous le jure. requin dans son bureau, seul. Il est pris de remords et pense à sa fille qui ne sera jamais, plus jamais sa fille. Sa fille, sa seule enfant, qui a préféré ne plus avoir de mémoire plutôt que de l'avoir pour père. Je suis un criminel. C'est moi qui l'ai tuée. J'ai abusé d'elle et je l'ai rejetée. Le temps passe. Après son opération, Karine est allée dans une maison de repos quelques semaines où on l'a surveillée et donné des traitements après opération. Une fois qu'elle s'est bien remise, elle est retournée à Paris. Riquin sait tout ça. Il décide de la faire suivre pour savoir ce qu'elle fait, si elle a des amis, etc. Il donne l'adresse et le nom à un homme pour la suivre. C'est un homme de taille moyenne, cheveux châtains dans les 40 ans, costume gris. Vous direz tout ce qu'elle fait, où elle va, si elle a des amis. Bien, monsieur. L'homme suit Karine qui est retournée dans son hôtel boulevard Saint-Germain parce que tant qu'elle n'a pas de travail, elle ne peut pas louer un appartement. Il faut qu'elle présente des feuilles de paye. Elle ne travaille pas, elle n'a pas d'amis. Une fois qu'il a appris ça, Riquin a envie de la revoir. Alors, il va dans ce quartier. Il traîne autour de son hôtel sans oser l'aborder s'il la voyait. Il y va plusieurs fois par jour, par semaine, à des heures différentes pour tâcher de la voir. Semaine passe, il n'arrive pas à la voir. Bien entendu, il pourrait aller à l'hôtel et la demander, mais sous quel prétexte? Les jours passent. Il est toujours pris de remords. Enfin, un matin, il la voit sortir de son hôtel. Il est très ému de la revoir. Elle n'a pas changé. Il la suit. Elle entre dans un café pour prendre son petit déjeuner. Lui hésite et entre aussi. Elle va s'asseoir à une table. Lui s'assoit à une table en face d'elle. Elle commande au garçon son petit déjeuner. Riquin en fait autant. Elle le voit sans le voir comme une personne que l'on ne connaît pas. Cela lui fait mal de voir qu'elle ne le reconnaît pas, mais il sait qu'elle ne pourra jamais le reconnaître. Il a une envie folle de lui parler, mais il faut qu'il trouve un prétexte. Il s'aperçoit qu'elle a une panière remplie de croissants, et lui n'en a que deux. Il les mange, puis, en hésitant un peu, il va vers elle. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je vois que vous avez beaucoup de croissants. Est-ce que vous allez tous les manger ? Elle lui dit. Non, pourquoi ? Eh bien, parce que j'en ai plus et comme j'ai encore faim. Elle lui dit. Prenez-en si vous voulez. Moi, j'ai assez mangé. Merci beaucoup. Le matin, je suis toujours pris de fringales. Pour vous ? Elle lui dit. Moi aussi, mais j'ai assez mangé. Il lui demande. Vous habitez ici, dans le quartier, je veux dire? Oui, pour le moment. Mais c'est parce que je vais à l'hôtel. Je cherche du travail. Et quel genre de travail? Un travail de secrétariat. Je ne sais pas faire grand-chose. Je n'ai pas de diplôme. Il lui dit, oui, ce ne doit pas être facile de trouver quelque chose. Oh que non, surtout que j'ai été malade. Ah, c'était grave? Non, une fatigue. Mais maintenant, cela va mieux. Il lui dit, je comprends, moi aussi j'étais malade et j'ai perdu ma fille. Je suis navré, monsieur. Il lui demande, vous vivez seul? Oui, je n'ai pas de famille. Elle le retrouve, bel homme et gentil. Elle lui dit, asseyez-vous si vous voulez. Il s'assoit. Il est de plus en plus troublé par sa fille et triste qu'elle ne le reconnaisse pas. Elle lui dit, vous pouvez manger vos croissants si vous le désirez. Oui, bien sûr. Il en prend un. Après toutes ces années, se retrouver avec sa fille sans qu'elle le reconnaisse. Il lui demande, vous êtes de Paris? Elle lui répond, oui. Et sans famille? Oui, sans famille. Il lui dit, et que comptez-vous faire? Chercher du travail et un logement. Il lui dit, j'aimerais vous aider. Je crois que je pourrais vous trouver du travail. Je vais me renseigner. Surtout, ne craignez rien, c'est du sérieux. Comment pouvons-nous vous contacter? Je vais vous donner mon adresse. Elle sort de son sac un calepin et un crayon. Elle écrit son adresse et son nom sur la feuille, la déchire et la lui donne. Il la regarde et lui dit, tiens, nous avons le même nom de famille. Elle lui dit, oui, c'est étrange, mais sûrement qu'il y a beaucoup de ricains dans le monde. Il lui dit, sûrement pas aussi charmante que vous. Elle rougit parce qu'elle le trouve charmant. Lui est triste qu'il ne l'ait pas reconnu. Il en a les larmes aux yeux. Il aimerait la prendre dans ses bras. Elle se lève et lui dit, je vais vous laisser. Il lui dit, déjà? Oui, bien sûr. Il se lève. « Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. » Et il la voit s'éloigner. Il se dit que c'est bien fait pour lui, qu'il a péché, mais il veut l'aider. Qu'elle ait du travail pour avoir une vie bien tranquille. Elle l'a bien méritée.
Thank you.
après avoir réfléchi, il va voir Danfort dans son bureau.
Entrez. Venez vous asseoir, monsieur Ricard.
Je connais une jeune fille bien sérieuse et qui cherche du travail de secrétariat. Danfort lui demande, quelle est cette jeune fille? Ricain lui dit, c'est une de mes anciennes patientes. Elle a besoin de travailler. Danfort lui demande, ce n'est pas une mutante? Non, une femme normale. Bien. Si tu veux absolument lui trouver du travail.
Oui, parce qu'elle le mérite.
Bien, tu lui dis de venir me voir et on lui trouve quelque chose à faire. C'est une débutante?
Oui, presque.
Bien, donne-moi son nom.
Ricain rougit. Karine Ricain.
L'enfant lui dit, mais pourquoi ne l'as-tu pas dit avant que c'était ta fille?
Ricain lui dit, c'est-à-dire que non.
Je connais le nom de ta fille, et je l'ai vue plus d'une fois. Tu ne dois pas être gêné qu'elle veuille travailler avec nous.
Ricain lui dit, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'elle a perdu la mémoire et elle ne sait plus que je suis son père.
L'enfant lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait?
C'est pas moi. Et puis zut, elle était amoureuse de quelqu'un. Elle a voulu l'oublier pour l'effacer de sa mémoire et je l'ai opéré sans le savoir.
Mais c'est impossible.
Si, parce qu'elle avait un masque et qu'elle avait complicité de Galien. J'étais furieux d'ailleurs contre lui.
L'enfant lui demande, et qu'est-ce qu'il t'a dit?
Qu'il le fallait, pour le bien de tous.
Il a sacrifié ta fille pour nous. Quel homme! C'est bien l'élu.
Ricain lui dit, oui, malheureusement.
L'enfant lui dit, bien. Tu l'as fait venir, on la prend, on lui doit bien ça.
Ricain lui dit, merci, mais ne lui dis surtout pas que je suis son père, parce que ça pourrait la troubler.
Je te le promets.
Le lendemain, Ricain va à l'hôtel prévenir Karine. Il entre dans l'hôtel, qui est un petit hôtel modeste. Il va à l'accueil. Un gros homme à moustache, Ricain lui dit. « Bonjour, j'aimerais parler à mademoiselle Karine Ricain. »«
Chambre 22, premier étage. »«
Merci. » Et il y va prendre l'ascenseur.
Il sort de l'ascenseur au premier étage. Long couloir. Cherche la chambre 22. Enfin, il la trouve. Frappe à la porte. Entrez. Il entre. Elle est assise à une table à écrire. Il lui dit,
Bonjour. Vous vous souvenez de moi?
Oui, bien sûr. Bonjour.
Il va vers elle. Il est tout ému de la revoir dans son intimité, dans une chambre minable et triste.
Il lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elle se lève. Je vous ai trouvé du travail.
C'est vrai?
Elle se jette à son cou pour l'embrasser. Cela le gêne. Il lui dit,
vous devez vous présenter de suite à cette adresse et demander M. Danfort.
Vous avez rendez-vous avec lui. Il lui donne un papier avec l'adresse. Elle lui dit,
merci, je sais comment vous remercier.
En allant à l'adresse, elle lui dit, car elle le trouve très bon et très bel homme.
Nous reverrons, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Allez-y, je vous laisse.
Et il la quitte, en se disant qu'il ne la reverra plus. Cela vaut mieux. Il lui a assez fait de mal.
Elle est allée chez Danfort, qui a été parfait. Il lui a donné un poste de secrétaire dans une de ses entreprises. Riquin, lui, se sent démoralisé et Vitali le fatigue. Un soir, qu'il l'a amené au restaurant, il lui dit « Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on ne se revoie plus. » Elle lui dit « Depuis que ta fille t'a quitté, tu es impossible. Où est-elle celle-là » Il lui dit « Laisse-la, elle n'y est pour rien. Tu m'agaces. J'ai besoin de tranquillité. » Elle se lève furieuse et lui dit « Eh bien, ta tranquillité, tu vas la voir. » Et elle le quitte. Galien ne le regrette pas. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.